Ce rendez-vous vous est proposé en partenariat avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de franchise. Le Talk Franchise. Toute l'équipe de l'officiel de la franchise est en direct du salon Franchise Expo Paris.
Bonjour tout le monde, merci de nous rejoindre. Quatrième et dernière journée pour Franchise Expo Paris ici en direct de Porte de Versailles. Vous nous suivez sur talkfranchise.fr, ça se passe comme ça. Encore une fois, tout au long de cette journée et bien évidemment la version podcast audio est à retrouver sur l'ensemble des plateformes de podcast. Soyez les bienvenus avec aujourd'hui un dossier pour commencer sur l'étude d'implantation et la redynamisation des territoires avec une première partie autour du géomarketing et une deuxième partie sur le plan action cœur de ville. C'est Maureen Sonnier qui est avec nous, journaliste de l'officiel de la franchise. Bonjour Maureen.
Merci Florent. Alors aujourd'hui je suis accompagnée de deux membres du collège des experts de la Fédération française de la franchise. Le premier exerce dans le secteur du géomarketing depuis plus de 30 ans, Olivier Foucaire, fondateur et directeur du cabinet de conseil Amprixia. Avec lui, le directeur du développement chez le cabinet Territoire et Marketing, Nicolas Louis Amédée, qui compte derrière lui 22 ans d'expérience dans le géomarketing, 12 ans d'années plus précisément sur le milieu de la franchise. Bonjour Olivier, bonjour Nicolas.
Bonjour.
Alors concrètement, le géomarketing, qu'est-ce que c'est ? Savoir où, comment et quand cibler ses clients sur une aire géographique grâce à l'utilisation. Essentiel donc lorsque l'on souhaite trouver le meilleur emplacement pour son local. Pour commencer, Olivier, est-ce que vous pouvez me parler de l'évolution majeure qu'a connue le secteur ces dernières années avec notamment l'explosion de l'utilisation de la data ?
Absolument. Le géomarketing, comme le nom l'indique, c'est la réunion finalement d'un territoire et puis d'informations commerciales, marketing. Et nous travaillons toujours les projets à travers une zone de chalandise qu'on définit avec de la cartographie numérique. On a des outils aujourd'hui assez précis et fiables. Et on nourrit ce territoire ensuite d'informations, de données. Et le constat qu'on peut faire depuis maintenant quelques années, c'est la forte évolution des bases de données, l'accès à des informations sur des micro-territoires au niveau d'un quartier, par exemple, d'une ville. On peut avoir, bien sûr, des données sociodémographiques proposées par l'INSEE. Ça, c'est assez classique. Et puis, ces dernières années, nous avons beaucoup d'informations sur le comportement aussi des populations en termes d'achat, en termes de fréquentation de points de vente. Et donc, finalement, l'émergence, l'évolution technologique digitale nous permet aujourd'hui d'avoir beaucoup d'informations sur la population d'un territoire donné et de mieux peut-être comprendre son fonctionnement à travers les études de marché et peut-être d'avoir une réponse plus précise avec un commerce qui tient compte ou tient mieux compte peut-être des attentes de cette population.
Et justement, Nicolas, dans le cadre du choix de son emplacement, est-ce qu'un franchisé peut uniquement se reposer sur l'analyse théorique du géomarketing ? En quoi les déplacements physiques sont encore importants aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'ils apportent en plus ?
Alors en fait, comme Olivier l'a dit, la data est hyper importante. Ça fait partie des points qu'on utilise et c'est notre matière première finalement en géomarketing. C'est ce dont on a besoin. Ça décrit la population, ça décrit les salariés, ça décrit vraiment un environnement. Pour autant, est-ce que ça, c'est suffisant pour estimer un chiffre d'affaires potentiel ? Est-ce que c'est suffisant pour savoir si le point de vente va réussir ? Et quel va être le niveau de performance ? C'est un premier niveau d'indicateur qui est important, mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi ? Parce qu'on peut être dans une super zone avec tous les indicateurs potentiels. Si votre emplacement, on est dans l'impasse, dans la cave, au troisième sous-sol, bah, on ne fera peut-être pas de miracle si le concept est lié à une notion d'emplacement très fort. Donc, et pour cela, il faut pouvoir analyser l'emplacement que l'on peut avoir. Et dans ce cadre-là, l'étude de marché d'implantation a aussi pour objectif de se déplacer concrètement sur le terrain pour aller regarder tout un ensemble de ce qu'on appelle, nous, finalement, de piliers. Les piliers, c'est aller mesurer la visibilité. Est-ce que le local est visible selon différents axes de rue, selon des arrivées ? Est-ce qu'on est vraiment sur un emplacement qui nous paraît suffisant pour avoir et générer justement de flux ? Ensuite, derrière, il y a l'accessibilité. Parce qu'un emplacement visible, c'est bien. Mais pour schématiser, imaginez que vous avez un terre-plein central et que vous avez du flux de voitures et qu'on ne peut pas faire demi-tour, bah on capte que la moitié des personnes potentielles. Donc l'accessibilité, c'est le fait de pouvoir se rendre facilement sur votre emplacement. Comment on y vient ? Ça fait partie des points qui vont être très forts. Et puis, au-delà de ça, on va regarder aussi ce qu'on appelle la concurrence, l'environnement commercial, synergique, ce qu'on appelle les générateurs de trafic qui vont nous aider. Et tout ça, le terrain, ça va être une composante qui va être extrêmement importante parce que c'est ce qui va nous permettre franchement d'identifier des leviers supplémentaires et puis des éléments forts sur l'emplacement et qui participent complètement à la modélisation du chiffre d'affaires. Sans ça, on reste sur un élément qui est très théorique, qui est très lié au descriptif des données. Sur le terrain, on peut aller plus loin, on peut aller qualifier, on peut aller aussi interroger ces personnes, comprendre les dynamiques. Et donc ça, c'est des points extrêmement importants de continuer d'avoir ce terrain. Mais généralement, les porteurs de projets en sont convaincus comme les enseignes. En fait.
Est-ce que vous pouvez peut-être me parler des types d'outils que vous utilisez dans au quotidien ?
Bien sûr. Donc le géomarketing, c'est la réunion d'un territoire avec des data, des données. Et donc on a depuis maintenant trentaine d'années des outils très performants de systèmes d'information géographique. Alors celui que nous exploitons dans notre entreprise en Prixia, c'est le logiciel MapInfo, qui est un logiciel donc qui permet de définir un territoire précisément, et chaque portion du territoire comprend des bases de données, des données quelles qu'elles soient. Alors encore une fois, sur la population, mais pas que. Donc, on a toute une série d'informations liées à l'objet géographique représenté par ce logiciel de cartographie. Et donc, l'outil au quotidien pour nos études de marché, c'est vraiment le système d'information géographique qui est la première base de travail pour cibler les territoires, récolter la base de données ou les bases de données adéquates au projet. Et puis après, il y a toute une analyse, bien sûr, statistique, et puis également d'expérience du chargé d'études dans le métier du commerce étudié.
Merci beaucoup.
De notre côté, nous, on est éditeur de logiciels aussi, puisqu'on appartient à un groupe qui s'appelle Cyril Group. Donc on édite nos propres solutions. On a une solution qui s'appelle Easy Retail. Donc ce qui fait qu'on met aussi, on utilise nos propres outils pour faire nos études, et on met aussi à disposition de nos clients des applications clés en main pour qu'ils puissent exploiter facilement les résultats des études, en fait, tout simplement.
Sur le terrain, tout seul.
Alors, exactement, chez eux ou sur le terrain, parce qu'ils peuvent aller justement visiter des locaux, les enrichir avec un certain nombre d'informations. Donc, ça devient leur outil opérationnel pour eux, pour un responsable développement, un directeur développement, sans qu'il ait besoin de niveau d'expertise sur les systèmes d'information géographique dont parlait Olivier, qui est quand même un métier d'expert.
De grands changements sont également intervenus ces dernières années en termes d'urbanisme, grâce notamment au plan Action Cœur de Ville, donc un grand plan d'investissement public qui vise à redynamiser les centres-villes de villes intermédiaires et qui a ouvert de nouvelles opportunités pour les franchisés sur leurs emplacements. Olivier, comment ce plan d'aménagement a-t-il permis de stimuler les centres-villes par l'implantation de nouveaux commerces ? En quoi ce plan était différent des autres tentatives ?
Oui, il est vraiment spécifique. Il a rencontré un succès. Pour preuve, le gouvernement a renouvelé un deuxième plan là, qui démarre dans ces dernières semaines. Donc ça veut dire que la première phase de ce plan a bien fonctionné. Alors le principe, c'est finalement, on a constaté, et moi je l'ai vécu dans toute ma vie professionnelle, c'est le développement du commerce en périphérie. Ça a été la logique, en fait. Donc on a petit à petit finalement délaissé les cœurs de ville, les centres-villes, au profit des zones commerciales en périphérie de grandes villes et de villes moyennes. Et puis, donc, ce constat, on l'a fait tout au long des 30, 40 dernières années, mais on n'a jamais trouvé réellement de solution pour rééquilibrer finalement ces projets commerciaux un peu moins en périphérie et un peu plus en cœur de ville. Et là, peut-être à travers ce plan Action Cœur de Ville, pour la première fois, on a un projet qui montre une inflexion, alors qui a été très ambitieux, puisque c'est la réunion finalement de diagnostics sur les aménagements urbains en centre-ville. Est-ce qu'ils sont favorables ou pas à la déambulation commerciale, à la fréquentation du centre-ville? C'est aussi la refonte de l'habitat, c'est-à-dire on a beaucoup de centres-villes qui restent déserts, c'est-à-dire que on a des logements, des maisons, souvent des appartements au-dessus des commerces qui sont vides, qui ne servent plus pour l'habitat. Donc les remobiliser en termes d'habitat de façon à faire revenir la population. Et la population qui revient en centre-ville, c'est le consommateur aussi du centre-ville et des commerces. Et puis, dans un troisième point, ça a été travailler sur le commerce, le redensifier, retravailler des linéaires pour montrer que la ville en question a une offre commerciale conséquente. Et donc, ces trois paramètres, aménagement urbain qualitatif, habitat remobilisé et le commerce redensifié, eh bien, ça permet d'avoir des solutions pérennes et une offre en centre-ville qui devient pertinente. Et en même temps, et j'en aurais terminé, on a au niveau de la législation des autorisations à solliciter quand on veut s'implanter en grande surface, principalement plus de 1000 m² de surface de vente, donc c'est déjà des grands magasins. Quand on veut s'implanter en périphérie, il faut demander des autorisations. Eh bien, sur ces territoires qui bénéficient du plan d'action cœur de ville, donc plutôt dans des parcours urbains centre-ville, les autorisations ne sont plus nécessaires. Donc n'importe quelle enseigne, quel que soit son projet, peut s'implanter en centre-ville. Donc c'est une vraie inflexion aujourd'hui dans la disposition du commerce aujourd'hui dans nos territoires.
Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être d'un succès de ce type de plan qui a fonctionné dans une ville ?
Oui, il y en a beaucoup, parce que la plupart finalement des villes ont eu... Alors ça s'appuie sur des diagnostics assez complets sur ces trois paramètres que j'ai cités, aménagement urbain, habitat et commerce, et puis à chaque fois des plans d'action qui ont été mis en place. Par exemple, vous avez des centres-villes, que ce soit Chartres par exemple, simplement on a refait les rues piétonnes, on les a réhabillées un petit peu, et ce qui fait que la déambulation finalement par le piéton est beaucoup plus aisé, beaucoup plus agréable. On a mis des petites places pour se poser, avec des bancs un peu paysagers également. Finalement, le centre-ville devient un lieu agréable où on a envie d'aller pour faire du commerce, pour aller dans les commerces, mais aussi simplement pour y passer un bon moment. Donc voilà, Chartres et d'autres villes, bien sûr. Il y a eu 224 villes ou 230 qui ont bénéficié de ce plan, et on peut dire avec succès.
Nicolas, est-ce que vous pouvez nous détailler l'importance de la relation stratégique entre le porteur de projet et les acteurs territoriaux ?
Oui, tout à fait. Comme le disait Olivier, ce plan Action Cœur de Ville a des conséquences très fortes. Et aujourd'hui, les territoires sont confrontés à un vrai problème qui est qu'on veut attirer bien sûr des enseignes, venir dans les centres-villes. Mais pour qu'il y ait des enseignes qui viennent dans les centres-villes, il faut qu'il y ait des porteurs de projet. Puisqu'on se développe en franchise, principalement ou sous forme d'un contrat. Principalement, et dans ce cadre-là, la problématique du territoire, qui a un manager de centre-ville, ou qui a un responsable du commerce, ou qui a un élu en charge de cette activité, doit pouvoir attirer ses porteurs de projet. Et pour les attirer, il faut déjà les identifier. Le principal problème est d'identifier son porteur de projet, qui finalement a envie d'ouvrir sur la commune, mais qui va être confronté à une réalité opérationnelle, qui est pragmatique, qui est je ne trouve pas de l'emplacement, je ne trouve pas de locaux, compte tenu du concept que je veux implanter. Et donc je me retrouve confronté à un certain nombre de problématiques qui fait que j'ai des porteurs de projets qui peuvent vouloir venir sur mon territoire et qui en réalité vont aller ouvrir dans la commune d'à côté. Donc on se retrouve dans des enjeux territoriaux où la commune se retrouve en concurrence finalement avec d'autres territoires à proximité ou autres, et elle doit capter ces porteurs de projets. Et pour les capter, il faut les identifier. C'est déjà le premier point. Et aujourd'hui, un manager centre-ville a énormément de mal à capter finalement ces porteurs de projets. Il a du mal à les identifier parce que derrière, lui, il peut avoir des leviers. La collectivité peut décider de faire des politiques de préemption, peut décider de faire des politiques incitatives, peut geler des loyers. Il y a plein de possibilités pour les attirer. Encore faut-il les identifier. Et c'est en ça qu'il y a une relation finalement assez forte entre la collectivité via le manager centre-ville ou le spécialiste du commerce, via l'enseigne et via le porteur de projet. Et dans ce cadre-là, il faut structurer ne serait-ce que des outils, un système d'information, interroger, savoir qui a envie de venir, qui est moteur pour ouvrir, et puis ensuite les garder sur son territoire et mettre en place les politiques d'action locale pour faire en sorte que le projet arrive à terme, en fait, tout simplement.
Vous travaillez avec des municipalités justement qui sont proactives sur ce sujet-là ?
Bien sûr, de plus en plus, et qui nous demandent d'ailleurs de les aider, de leur fournir et des études et des outils qui sont capables d'industrialiser entre guillemets cette démarche, parce qu'aujourd'hui ils le font comme ils peuvent, c'est-à-dire ils essayent des personnes qui les contactent, ils ont un petit fichier Excel dans un coin et puis et ça s'arrête là souvent. Ce dont ils ont besoin, c'est d'avoir des outils un peu plus dynamiques, d'être capable d'aller vraiment les identifier. Et puis, quand on va interroger régulièrement de la population sur leurs intentions en ouverture, sur l'envie d'entreprendre, ce genre de choses, on les détecte le plus tôt possible. Donc, ils nous sollicitent aussi vraiment de plus en plus pour ces problématiques, parce que c'est à la fois une réponse logicielle, finalement, informatique, mais aussi une réponse étude, pour pouvoir ensuite l'industrialiser dans une démarche complète. Et c'est une démarche méthodologique qu'on leur propose pour qu'ils puissent avancer sur ça.
Bah écoutez, merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce talk.
Merci, merci à vous, merci Maureen. On retrouve évidemment tous vos articles sur l'officiel de la franchise. Merci à vous de nous suivre dans un instant. Ce sont nos interviews qui arrivent. On va s'intéresser notamment à Cash Express. On sera avec Arnaud Guérin, le coprésident de Cash Express. Soyez les bienvenus.
Le Talk Franchise. Toute l'équipe de l'officiel de la franchise est en direct du salon Franchise Expo Paris. Ce rendez-vous vous est proposé en partenariat avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de franchise.